Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Fanny, bienvenue dans cet audio dédié aux informations à vous donner dans cette partie d'introduction sur les blessures. Bien sûr, on ira forcément en profondeur selon chaque blessure, mais chacune d'entre elles possède une généralité qu'il nous faut connaître pour pouvoir entamer ce travail de guérison. Et j'ai envie de commencer cet audio par une réflexion que j'ai eue, parce que récemment, il y a des blessures qui ont beaucoup fait part d'elles, comme les blessures sorcières, les blessures des sœurs, les blessures des mères. Et je me suis demandé si finalement elles n'étaient pas que des bouts rattachés à l'une ou l'autre des cinq blessures que nous allons explorer ensemble. Par exemple, la trahison pour la blessure de la sorcière, parce que il est fréquent qu'à un moment donné de sa vie, elle a été trahie par des amis, des voisins, donnée en tant qu'information lors peut-être d'une torture de l'une de ses sœurs. Et aujourd'hui, les âmes qui expérimentent ces blessures vont avoir des conduites différentes selon leur propre stade de guérison, donc selon là où elles en sont. Elles vont crier à la découverte, de retrouver les pratiques sorcières. Elles vont le faire par rébellion. Elles vont aller au clash, comme on dit, ou alors faire des crises, se révolter. On est ce qu'on est. Et lors de l'éducation, on s'en rend compte que ça ne va pas fitter, aller, correspondre avec les conditions de vie que la société a décidé pour nous, ou a décidé en général. Et on va vivre beaucoup, beaucoup de frustration. C'est un stade que l'on appelle le stade de l'enfance. Puis, peu à peu, à un autre stade, on va se plier à ce qu'attend la société de nous, et ça va nous faire mal, parce qu'on ne va plus se sentir libre. On va avoir peur, on va se cacher. Par exemple, on va réellement se cacher à jouer aux petites sorcières dans sa cave ou dans sa maison, à créer des hôtels que personne n'aura le droit de voir, ou des peintures que l'on cachera également. Ou bien on va se cacher derrière un masque, on va voir les masques du dépendant, du fuyant, et au lieu d'agir dans l'alignement de ce qu'on est, on va tout simplement réagir par peur d'avoir mal à nouveau. Une autre étape, c'est d'assumer ce qu'on est et de se dire qu'on s'en fiche de ne pas être conventionnel. C'est l'étape de la femme sage, celle qui est véritablement mature, ancienne. À force, on a compris le message des douleurs que l'on a reçues peu à peu. C'était de ne pas pouvoir être libre de ce que nous sommes réellement. Et nous faisons le choix d'être, le choix du soi, le choix de la confiance plutôt que de la peur, notamment de la peur de la trahison, toujours en fonction de cette blessure sorcière. Et on persiste à être libre, à rester dans sa vérité, peu importe les risques. Hier, ces risques, c'était l'Inquisition par exemple. Et c'est ça la véritable magie, c'est-à-dire l'âme qui agit dans sa vérité. L'âme peut être un agent de douleur qui va activer des blessures chez un autre. Et ce n'est pas vraiment notre fort, notre tort, notre faute. C'est comme ça, c'est ok, nous sommes des agents, nous sommes au service. Les blessures qui arrivent dans l'enfance, ce sont donc des blessures de l'enfant intérieur, qui aujourd'hui est encore en nous et qui aujourd'hui souffre encore. C'est pour ça que finalement, il n'y a pas de différence entre faire une guérison des cinq blessures ou alors entamer plutôt une guérison de l'enfant intérieur. L'un va avec l'autre. Pour nous protéger de cette souffrance, la seule solution que nous avons trouvée, c'était l'oubli, le déni, l'enfouissement profond. En faisant cela, notre ego, qui a été le moteur de cet enfouissement, eh bien, il pensait bien faire. Il pensait nous protéger. On va le voir plus précisément dans un autre extrait audio. Mais voilà, on sait bien qu'on ne peut pas, on ne peut pas construire une maison sur une ancienne décharge ou sur un ancien cimetière indien sans que se produisent des problèmes. Les films nous l'ont bien montré. Il va y avoir des fissures dans notre maison, des ensorcellements, des possessions, ou pire, ça va aller jusqu'à l'effondrement de la maison qu'on a mis pourtant tant d'amour et tant de temps à construire. Cette maison, c'est le soi. Et même aujourd'hui, on peut garder certains réflexes, le même réflexe quand la douleur ressurgit, ce réflexe de tout refouler. Les émotions, les souvenirs, et de les mettre dans notre part d'ombre, dans notre inconscient. C'est comme si on négligeait nos fissures, qu'on négligeait notre enfant blessé. Et ça, on va continuer à le faire jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix, jusqu'à l'effondrement. Par exemple, ça peut être une maladie dans le corps. Notre enfant, nos blessures se rappellent à nous pour que nous nous en occupions. Elle réclame d'être au centre de notre attention. Et elles le font par des inconforts au niveau du corps. Si véritablement on n'écoute pas les murmures, on n'écoute pas les indices, on ne voit rien. Il se produit un moment donné où on ne peut plus être aveugle. C'est humain de ne pas vouloir donner notre attention. Parce qu'on est effrayé par cette douleur qu'on a connue, cette douleur passée. Et nous voulons la fuir par tous les moyens, donc les dénis, mais aussi l'alcool, la drogue, etc., etc. Parce que c'est bien normal, nous ne voulons plus faire l'expérience de cette souffrance. On l'a fait une fois, on n'a pas envie de y remettre les pieds. Et bien c'est là que ça coince, vous le savez. Car nous sommes justement incarnés pour faire les expériences, pour les accepter, pour s'accepter nous-mêmes à travers elles, y compris les expériences de souffrance. Donc, même si c'était une solution d'urgence que de fuir, parce que c'est normal quand on est blessé comme un animal, il va s'enfuir pour pouvoir lécher ses blessures, on comprend aujourd'hui que ce n'est pas une solution à long terme de guérison, parce que les expériences ne vont pas cesser de se présenter. S'il faut qu'on apprenne quelque chose, la vie va trouver son chemin pour nous le remontrer, et nous le remontrer, tant qu'on ne les aura pas acceptés à 100%. Donc, prendre conscience de nos blessures, de cet enfant en nous blessé, qui ressent encore ses souffrances, eh bien ça va permettre d'abord d'éprouver de la compassion envers nous-mêmes et notre enfant intérieur, puis peu à peu, au fur et à mesure de conscience et d'attention, nous allons accepter et donc guérir. Nous allons prendre le temps d'écouter, c'est-à-dire de pratiquer l'écoute compatissante de notre enfant blessé pour chacune des 5 blessures à l'aide de l'art intuitif, de méditation, de questionnement, de pleine conscience, de tarot, de voyage chamanique. Tous ces outils, proposés sont des moyens de mettre l'attention sur nos blessures avec une certaine intensité. Donc une blessure, on va la nommer la blessure originelle ou primale, qui a été causée par les personnes qui s'occupent de nous lorsque nous sommes très très jeunes. On l'a compris, ils l'ont fait exprès, même si ce n'était pas conscient, c'est un contrat d'âme. Ils l'ont fait exprès soit parce que notre âme n'a pas encore eu l'occasion d'expérimenter à travers cette blessure-là, ou alors soit parce qu'elle a échoué à le faire dans une autre vie. Dans ce cas, la blessure originelle n'a pas eu lieu dans cette vie, finalement, elle n'a pas été vraiment créée maintenant. Mais avec nos parents, ils vont pouvoir... ils ne vont être que les instruments de la révélation de ce qui était fait avant. Pour différencier ces deux sortes de blessures au niveau du vocabulaire, je parlerai de blessure primordiale, donc la blessure parentale, ou alors de blessure antérieure. Et cette blessure antérieure est toujours le fruit d'un immense traumatisme causé souvent, très très souvent, par une mort horrible, en temps de guerre par exemple, à l'Inquisition, un crash, un naufrage, quelque chose de vraiment intense, une mort traumatique généralement. C'est ce qui explique pourquoi on va avoir une blessure plus ou moins grande et pourquoi elle va être causée par un acte plus ou moins intense de la part d'un parent. Par exemple, un parent qui ne sera pas disponible une seule et unique fois pour s'occuper ou pour jouer avec son enfant, alors qu'il est tout le temps présent d'habitude, ça parfois ça peut suffire pour créer une blessure d'abandon assez intense. Chez une autre personne, qui a pu se faire abandonner sur l'autoroute, par exemple, ou qui a été abandonnée toute son enfance chez ses grands-parents, ça ne va lui provoquer qu'une toute petite blessure, quasiment invisible. Donc on voit bien à quel point nos blessures et leur intensité sont liées à notre histoire personnelle, mais aussi à l'histoire de notre âme. Dans tous les cas, que ce soit de naissance ou une blessure réveillée, antérieure donc, il y aura une cause éducative originelle dans cette vie-là, un réveil. Et selon l'âge ou l'antériorité, on n'aura pas forcément accès, là maintenant, dans cette optique de guérison, à l'information, à la mémoire de la cause de cette blessure. Et c'est ok, on peut quand même travailler sans. C'est là qu'intervient en fait d'ailleurs le travail de Lise Bourbeau en nous montrant, en nous démontrant que même si nous n'avons pas accès à la mémoire, au souvenir, eh ben le corps, lui, il l'a inscrit en lui. On a ressenti en fait la blessure tellement fortement à l'intérieur de nous dans cette vie-là qu'on l'a inscrite dans la chair. Et c'est là qu'on voit à quel point ces blessures n'ont rien d'anodin. On pourra voir peu à peu que ces blessures, nos parents aussi les avaient en eux, avant. Que nos grands-parents les ont éveillées eux-mêmes chez nos parents, parce qu'ils les avaient en eux aussi, et ainsi de suite. Donc, en prenant soin de nos blessures, de notre enfant blessé, nous accueillons aussi celles des générations qui nous ont précédées. Nous guérissons toute notre lignée par cet acte, et nous cassons le cycle de la transmission. Si possible, vous pouvez suivre cette classe avec vos enfants et pourquoi pas avec vos parents aussi. Si vous ne pouvez pas tout faire ensemble, tentez simplement par exemple de vous réunir pour des moments collage ou des peintures et en résumant entre vous un petit peu avant ce que vous avez retenu chacun de la blessure et en expliquant où vous la sentez, quand, sans chercher forcément à rendre vos parents coupables ou à vous faire du mal les uns les autres. Si vous peignez avec vos enfants, s'ils se mettent à parler de leur histoire, n'essayez pas de justifier vos actes ou de dire qu'ils exagèrent par exemple. On est dans l'accueil, juste dans l'écoute, dans la conscience du corps, en étant attentif à ce qui s'éveille, le tout sans culpabiliser. Car autant vous avez choisi vos parents pour traverser ce processus de guérison et c'est formidable, autant vos enfants on fait exactement la même chose. Et même si vous faites ce travail de guérison avant d'avoir des enfants, soyez conscient qu'une simple parole, un simple mot pourra éveiller ou réveiller une blessure chez votre enfant. Même si vous avez déjà entamé une grande guérison de votre côté, sachez que c'est toujours, toujours possible. Le but alors n'est pas d'empêcher les mauvaises expériences à nos enfants, mais de partager avec eux les moyens de guérir. Et cela peut être fait très très tôt pour que cela fasse partie de leur quotidien, de leur réflexe de vie. N'hésitez donc pas à intégrer vos proches à cette classe, à partager avec eux vos découvertes, mais toujours, toujours avec bienveillance, sans chercher à mettre au pilori les responsables de vos blessures. La guérison vient avec l'acceptation. Et la vengeance, même verbale, est le contraire de l'acceptation. Cela ne fera qu'accentuer la blessure au lieu de la soigner. C'est totalement contre-productif. Pour en revenir à vos enfants, ne culpabilisez pas de faire ce travail après leur naissance non plus, voire après leur adolescence, ou encore plus tard, car tout a une raison dans sa vie, dans cette vie. Et comme je le disais, vous auriez de toute façon éveillé l'une ou l'autre blessure en eux, parce que la vie s'arrange toujours pour nous faire expérimenter ce qui doit l'être. Vous allez voir qu'à travers ces différentes classes sur les différentes blessures, que vos blessures vous ont rendu certainement méfiant vis-à-vis de l'autre. Vous avez ainsi caché votre moi authentique avec un ou plusieurs masques. Ce travail va pouvoir vous aider à vous relier avec les autres d'une façon beaucoup plus saine, à rétablir la communication, à rendre plus fluide, plus authentique, et ben toutes nos relations. Donc, ça va nous permettre de retourner à notre authenticité, à notre innocence, que même la prise de conscience de nos blessures. C'est déjà formidable en soi. Et cela signifie que lorsque nous agissons sous l'emprise de nos blessures, ou plutôt sous l'emprise de la peur de revivre une telle blessure, eh bien, ça veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous portons un masque. Nous adoptons une série de comportements qui ne seraient pas forcément les nôtres à l'état authentique. Ces masques sont au nombre de 5, car il y a autant de masques que de blessures. Chaque blessure a son masque. J'aime beaucoup, beaucoup la façon dont en parle Lise Bourbeau. Elle dit que notre blessure peut être comparée à une blessure physique. Imaginons par exemple une blessure à la main. Et au lieu de la soigner, tout simplement parce que nous étions des enfants et que nous ne savions pas comment donner les premiers soins à une telle blessure, on a mis un gant dessus, pour ne plus la voir. Le gant correspond à notre masque. Mais même s'il cache bien la blessure, elle existe toujours, elle est toujours là, on est d'accord. Imaginons maintenant que nous tombions amoureux et que notre chéri nous prenne par la main pour se balader au bord de l'eau. Eh bien, il ou elle va toucher notre blessure à travers le gant. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être même crier, parce que depuis le temps, on peut dire que la blessure n'est pas en très bon état. Alors, on dit à notre chéri que ça nous fait mal, et bien l'autre ne va pas comprendre. Pourquoi ce geste tout simple peut être si douloureux pour nous? Ce n'est pas sa faute, on est d'accord. C'est la nôtre, parce qu'on ne s'est pas guéri, parce qu'on ne lui a pas dit qu'on était blessé en plus, et surtout parce qu'on portait un gant pour tout cacher. C'est pourquoi les autres dans notre vie vont avoir des mots, des comportements qui vont nous faire mal, mais sans chercher à nous faire mal. La seule solution, c'est de soigner et de communiquer sur le fait qu'on soit blessé, d'arrêter de cacher. Une des choses difficiles à appréhender avec les blessures, c'est que l'action qui engendre la douleur ne va pas en plus correspondre forcément à notre blessure. Je m'explique sur ce point. On va dire que nous souffrons par exemple de la blessure d'humiliation. Dans le cas où une personne nous rejette, ou tout un groupe d'amis qui nous rejette, par exemple d'une soirée, apéro, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va souffrir, forcément. Mais on ne va pas souffrir de rejet. L'action, c'était un rejet. Mais on va plutôt souffrir d'humiliation à cet acte-là, à ce geste. Toutes les occasions vont être bonnes pour nous faire croire que nous avons été humiliés. Ainsi, dans une même situation, une personne va souffrir de sa blessure originelle, peu importe la définition de l'acte en lui-même. C'est là vraiment que les choses se corsent. Et c'est pourquoi il va falloir avoir une référence particulière. Cette référence, c'est notre corps. Parce que, par exemple, dans mon cas, parlons voilà avec des exemples concrets, je porte la blessure de trahison. Et je me sentais blessée dans les situations injustes, comme par exemple le fait que des milliers